aussi ce matin dans ta présence. Parce que nous avons compris une réalité, c'est que toi, tu te révèles à toute personne qui te cherche. Seigneur, c'est la raison d'être de notre présence en ce lieu. Parce que nous avons aussi compris que lorsque nous venons dans ta présence, Père, toi, non seulement tu nous transformes, mais tu permets que nous puissions encore te ressembler de plus en plus. Seigneur, mon Dieu éternel, mon roi, ce matin, nous voici devant toi. Et notre prière élevée de nos cœurs, et que tu permettes que ta parole trouve la place qu'il faut dans nos cœurs. Que ton Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos vies. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons nous abandonner entièrement entre tes saintes mains. Permets que ta grâce, Seigneur, se manifeste, Seigneur, dans chacune de nos vies. Et permets, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que je ne sois qu'un instrument inutile entre tes saintes mains. Bénis, Seigneur, chacun de nous. Bénis ces instants et qu'ils servent à ta gloire et à l'avancement de ton œuvre dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. J'ai toujours eu l'impression que les jours passaient maintenant trop vite. À peine c'était les réveillons, on nous annonçait notre thème. Esprit de Dieu descend sur moi. L'Esprit de Dieu descend sur nous. L'Esprit de Dieu descend sur chacun de nous. L'Esprit de Dieu, nous en avons tous besoin. Nous en avons tous besoin. Ce matin, j'aimerais juste maintenir dans ce même thème, tout en nous proposant comme texte Romains chapitre 8, que j'aurais bien voulu lire avec nous à partir du premier verset, mais je serais obligé juste de prendre une petite portion parce que nous avons vraiment pas beaucoup de temps. Normalement, Romains chapitre 8 à partir du verset 1. Mais je vais commencer ma lecture, moi, au verset 5. Donc, de 1 à 14. Mais je vais commencer seulement à 5 et je ne lirai même pas tout. La Bible dit, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Vous pouvez continuer parce que tout le chapitre là, il est intéressant. Mais je crois que vous avez remarqué avec moi, ne fût-ce que dans la petite portion que nous venons de lire, il y a deux mots qui reviennent. La chair et l'esprit. La chair et l'esprit. En fait, c'est comme si on faisait une opposition entre les deux. D'un côté, il y a la chair, de l'autre côté, il y a l'esprit. La chair et l'esprit. Esprit de Dieu descend sur moi. Et ce matin, j'aimerais juste pour que nous puissions bien nous comprendre, prendre cette portion en deux points. Premièrement, je vais parler de la chair. La chair. Oh, c'est facile à dire, mais la chair. Voyez, cette partie de notre corps, cette matière-là, la partie matérielle là, cette partie là, la chair, cette partie là, cette matière là créée par Dieu, à partir de quoi? La poussière. Quelqu'un a dit, si tu grattes seulement ton corps comme ça, qu'est-ce qui reste dans ton ongle? La poussière, tu vois, souvent nous aimons dire la saleté, je suis sale, mais tu as enlevé seulement la poussière de ton corps, vous voyez? La poussière, c'est ça, c'est ce corps-là. que Dieu a créé pour servir tout simplement d'enveloppe à quoi? Au souffle, à son souffle. En fait, cette chair-là, cette enveloppe-là que Dieu a créée pour servir seulement d'enveloppe à son souffle. Vous pouvez prendre Genèse 2, 7, vous pouvez lire parce que c'est Dieu qui souffle dans l'homme. Vous pouvez aussi lire Proverbe 20, 27. Le souffle que nous avons, cette lampe de Dieu qu'il a mis en nous, c'est ça, c'est comme ça que Proverbe appelle ce souffle, la lampe de Dieu. Vous voyez, la lampe de l'Éternel. Et puisque nous avons le souffle de Dieu, quelqu'un a dit, il y a dans l'homme comme un vide qui ressemble à qui? À Jésus. Ce vide-là qui ne peut être comblé que par Dieu. Ce vide-là qui fait que dans ma marche de tout le jour, si je n'ai pas Dieu, je suis un peu comme mal à l'aise. Il y a comme un ça ne va pas. J'ai un comportement qui semble être bizarre. Ce vide-là, s'il est là toujours vide, bien-aimé, tu serais un peu comme si tu es un peu vacillant. Dans la chair, là, la chair, ce corps-là que Dieu t'a donné, il y a ce vide-là. Et ce vide-là ne peut être rempli que par la présence de Jésus-Christ dans nos cœurs. Ce vide-là n'est rempli que lorsque Jésus vient habiter en nous. Mais il se fait que nous avons ce corps de chair, ce corps tiré de la poussière, ce corps bien-aimé, ce corps est attaché à son origine. Ce corps aime son origine. Au point que ce corps a tendance à s'affectionner à son origine, à ce qui se passe de là où il avait été tiré, les corps que nous avons. Ton corps a tendance à être attiré plus par tout ce qui concerne ses origines, tout ce qui est de la terre, les corps que nous avons. Mais vous savez quoi? Ces corps que nous avons aussi utilisent plus l'observation. C'est les moyens d'enseignement, les moyens de formation que le corps a, c'est plus l'observation. Je peux être dans n'importe quel milieu, en général nous observons, même des fois sans nous rendre compte que nous sommes en train d'observer. Je vais commencer par un exemple terre à terre. Les sœurs qui sont ici, qui t'a appris à préparer du foufou? Qui t'a appris à le faire? En général, c'est quoi? On a passé du temps dans la cuisine avec maman. On a regardé comment maman faisait. Je crois que c'est ça qui s'est passé en général. On a plus regardé. Nous apprenons par l'observation. Mais il se fait que la chair là, apprend tout par l'observation en général. Si tu habites dans une famille où on aime faire les fétiches, toi aussi tu observes chaque fois qu'on fait les fétiches, tu vas faire quoi? Tu vas aussi te sentir à l'aise. Si tu es dans une famille où on aime beaucoup faire, par exemple, les gens vivent de l'adultère, de l'impudicité, toi aussi tu vas commencer à trouver que c'est ça la vie normale. Parce que c'est ce que la chair a vu. L'observation. Bien-aimé, que nous le voulions ou pas, même au jour d'aujourd'hui, il y a toujours au moins une personne qui nous observe. Malheureusement, j'ai dit, nous ne sommes pas conscients. Puisqu'il y a toujours une personne qui nous observe, quand je détourne là, sur les papiers, je fais tout, il y a aussi une personne qui m'observe. Tout ce que nous faisons, on nous observe. Vous allez voir un enfant devenir voleur. Il a commencé comment? Il a vu ça où? Il y a des questions que nous devons nous poser. Il y a des questions que nous devons nous poser. Ça a commencé comment? Et on a vu faire. Même lorsqu'on triche à l'école, ça a commencé comment? On a vu faire. C'est pourquoi la Bible nous encourage à servir des modèles. Père, sois un modèle pour ta maison. Maman, sois un modèle pour ta maison. Grand frère, sois un modèle. Nous sommes appelés à servir des modèles. Nous sommes appelés, surtout nous chrétiens, à être conscients que la chair de toutes ces personnes qui nous regardent nous observe. Quand je vais regarder, je dis, ah, elle est bien habillée, hein? Il est bien habillé, hein? Moi aussi je vais faire un effort. Il est propre, hein? Là-bas on fait comme ça, hein? Moi aussi je vais faire la chair. La chair. La chair aime les choses du monde. La chair s'affectionne aux choses du monde. Si on lui prive les choses du monde, la chair a tendance à souffrir. La chair que nous avons. Frères, sœurs, Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. » Ou encore, « Observez-moi, tirez des leçons de moi, comme moi-même j'ai fait quoi ? J'observe Christ et je tire des leçons. » Mais est-ce que les gens peuvent t'observer ? Est-ce que les gens peuvent t'observer et tirer des bonnes leçons ? Et pourtant la réalité c'est ça, notre vie devrait tirer les autres. Mais est-ce que ma vie attire les autres ? La chair, bien-aimée dans le Seigneur, la chair, elle aime beaucoup toutes ces autres, ces choses-là qui ne sont pas bonnes. Ces choses-là que Dieu n'apprécie pas. Ce sont les choses que la chair aime. La chair va aimer la tricherie, l'hypocrisie. La chair va aimer les mensonges. Mais ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Et vous savez encore quoi? La chair, là, on la stimule par les dires des autres aussi, par les comportements des autres. Ça nous stimule, ça nous booste, ce que les autres font. Parce que, ah, tout le monde fait ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Facilement, on va dire, tout le monde fait, donc moi aussi. C'est ça la mode, non? Puisqu'on a vu tel s'est habillé comme ça, tel autre s'est habillé comme ça, moi aussi je fais quoi? Je m'habille. On ne regarde même pas. C'est bon, c'est mauvais. C'est comment, pourquoi il s'est habillé comme ça? C'est pas mon souci. Tout le monde a fait, moi aussi. J'ai fait la chair. La chair. Ici, nous fonctionnons comme ça. On s'aligne sans réfléchir. La chair. La chair, on la stimule, on la pousse. Et puis après, quand on tombe dans quelque chose, on commence à regretter. Ah, si je savais. Pourquoi vous m'avez induit en erreur? Mais c'est trop tard. Pourquoi tu n'avais pas réfléchi aussi avant? La chair. La chair bien-aimée dans le Seigneur, elle se laisse des fois faire. Mais nous devons être conscients de ces choses. La chair que tu as. La chair peut t'induire en erreur parce que la chair nous commande. J'espère que nous sommes conscients de ça. La chair nous commande. Tu vois, tout le monde s'habille. Tu vois, tout le monde fait. La chair va te dire, maintenant, je dois manger. Tu es obligé de chercher à manger. La chair va te dire, je vais m'habiller comme ceci. La chair va te dire, je suis fatigué de rester sur place, je vais sortir. La chair va te dire, je vais regarder telle chose. Mais souvent, nous ne nous rendons pas compte, parce que la chair ne les dit pas tel que je suis en train de les dire. Mais tu vas sentir seulement comme un désir. Et souvent, on ne réfléchit même pas, on se lève et on fait. La chair. La chair, elle peut te diriger dans n'importe quel sens. Mais toi, tu dois savoir la gérer. Pourquoi? Parce que Galates 5, 19 à 20 dit ceci. Tu dois savoir pourquoi? Parce que Galates nous dit d'abord que les œuvres de la chair, nous présente les œuvres de la chair. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les disputes, les divisions, et les sectes. Vous pouvez continuer la lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Des fois, tu vas te dire, mais moi, est-ce que j'ai touché à ces choses? Non, ne sois pas pressé. Analyse un à un. Et tu vas voir peut-être que tu vas te retrouver dans ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, les œuvres de la chair, elles sont manifestes, comme on nous l'a dit, mais elles ont des conséquences, des fois néfastes, des conséquences, des fois graves, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, nous regrettons juste après avoir commis des erreurs, les œuvres de la chair. Il y en a comme ça, on vient d'en citer, et il y en a plusieurs. Le temps nous manquerait de revenir sur chaque œuvre. Mais, quand une personne, par exemple, vole, elle ne se rend pas compte qu'on peut m'arrêter. Je me souviens toujours de cette personne qui, chaque jour, travaillant dans une chambre froide, chaque jour, elle ramenait un petit colis à la maison, poisson, poulet. À la maison, tout le monde se réjouissait, non? Papa est revenu avec à manger. C'était un sujet de joie, on mangeait, on se réjouissait. Et chaque jour, c'était comme ça. Il revenait avec ça. Ah, on nous a donné aujourd'hui. Ah, on nous a donné aujourd'hui. C'était la joie, c'était on nous a donné. Mais chaque jour, on vous donne. Chaque jour, on vous donne. C'était quand même intriguant aussi. Et voilà notre ami qui revient chaque jour, jusqu'au jour où les responsables ont remarqué. Parce qu'en général, les mamans qui fréquentent les chambres froides, il nous est arrivé des fois où tu pars, si tu dis seulement, pèsez-moi cette rame de poisson avant que je l'achète, parce qu'il me semble que c'est, on dirait, moins de 10 kilos. Vous avez déjà eu ça dans les chambres froides, les mamans? Quand vous dites, pèsez-moi, ce sont des discussions qui commencent, ou alors si on pèse de bonne volonté, ça va tomber 8 kilos ou bien 9 kilos et demi. Vous avez déjà vu ça? Vous vous demandez, c'était venu 9 kilos et demi sur les cartons, on a écrit 10, ou bien c'était venu comment? Et notre ami, chaque jour, on leur donnait quelque chose à ramener à la maison, jusqu'au jour où le travail s'est arrêté. Et en général, quand le travail s'arrête de cette façon, tout le monde est mauvais, tout le monde est méchant là-bas. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien fait. Moi, je suis le bon. Mais les autres sont les mauvais. Les autres sont ceux qui ne comprennent pas ce que moi j'ai fait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de mourir dans notre pays à cause de ce genre de choses. La chair. La chair. La chair nous entraîne dans des choses que nous ne pouvons même pas justifier devant les gens. Vous savez, la chair, par exemple, ici chez nous au Congo, a enlevé la honte, a enlevé les ridicules. On a trouvé que tout est normal. Je me pose toujours la question. Je suis sur la route, en train de rouler. Un policier va m'arrêter parce que j'ai mal roulé. Il sait. Ok. C'est son droit de me demander pourquoi je fais telle ou telle autre chose, c'est son droit. Mais lorsqu'on ne va plus loin, qu'est-ce qui se passe? La chair. Et tout ça, on n'a même pas honte, hein? Même dans les bus là qu'on a arrêté, qui est dedans? Peut-être même mon épouse. J'ai eu une belle sœur qui avait un enfant malade il y a longtemps. Vous voyez, dans les chambres communes. Et une autre maman était à côté avec son enfant malade. La maman à côté avec l'enfant malade, c'était tout le temps. Rachetez encore le sang parce qu'il n'y en a plus. Rachetez encore, finalement, le médecin dit à la maman, « Maman, allez voir votre problème à la maison parce que ça, là, ce n'est plus normal pour nous. » En médecine, ça ne s'explique plus. Ce n'est plus normal. Le médecin sort, la maman qui crie, « Hé, Mbongo Toliaka, Yango Elandi Biso. » Mbongo Toliaka Elandi Biso. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout bien mal acquis. Tout bien mal acquis. Parce que la chair m'a poussé. Tout bien mal acquis. Petit ou grand. J'ai dit bien tout bien mal acquis. La Bible va ajouter dans le proverbe, ça devient comme du gravier dans ma bouche. Qui va manger les graviers? C'est-à-dire, ça devient maintenant, ça me met maintenant mal à l'aise. Tout
bien mal acquis, bien-aimé, aura des conséquences.
Et malheureusement, quand les conséquences arrivent, ils ne nous disent pas, moi j'arrive parce que la chair t'avait poussé à faire. On a oublié même ce que la chair avait poussé à faire, maintenant on est en train de subir trop tard. Bien-aimé, n'attends pas que ça soit trop tard. Réveille-toi déjà. Permets à l'esprit de descendre. Réveille-toi déjà. N'attends pas que ça soit trop tard. J'essaie de m'imaginer un peu la vie de Salomon. Salomon, commandé par la chair, il a eu combien de concubines? Il a eu combien d'épouses? Commandé par la chair. Mais c'était pour finir où? Pour finir dans quoi? Il s'est éloigné de Dieu. Frères, sœurs, tire des leçons. Les temps nous manquerait de dire ces choses, mais tire des leçons. Comment est-ce que toi, ta chair te pousse à agir? Comment est-ce que ta chair te pousse à agir? Le matin, lorsque nous venons dans l'église, on est mari et femme. Mais le soir, Dieu seul connaît ce que la chair me pousse à faire. Comment est-ce que ta chair te pousse, toi, à vivre? La Bible dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Ma chair, normalement, doit être crucifiée avec Christ. Quand la chair est crucifiée, elle est crucifiée avec ses commandements. Cela ne veut pas dire que je n'aurai plus besoin de m'habiller, que je n'aurai plus besoin de manger. Non. Mais je vais savoir vivre dans le contentement parce que ma chair est crucifiée. Donc les commandements de la chair n'auront plus de pouvoir sur moi. Mais combien de chrétiens aujourd'hui disent être chrétiens, mais leur chair n'a pas été clouée. Or, nous venons de les lire, si la chair n'est pas clouée, elle est inimitié avec Dieu. Elle marche en opposition avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu peux venir dans l'église, tu te calmes la conscience, tu fais tout pour être sembler être un bon chrétien, mais en réalité, tu n'es pas avec Dieu. À quoi ça te sert de perdre tout le temps comme ça? Dimanche matin, tu aurais dû dormir. Non, venons à l'église avec un cœur complètement ouvert. Mais ce que j'aime dans la Bible, hein, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Écoutez ce passage de Romains chapitre 7, 18 à 20. Dieu ne nous laisse pas comme ça. Vous pouvez aussi lire ce chapitre dans son entièreté, 18 à 20. La Bible dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Combien de fois tu as pris vraiment des décisions? Moi, je ne veux plus sortir avec cette fille. Moi, je ne veux plus prendre telle chose. Moi, je ne veux plus faire. Moi, je ne veux plus vivre sous les commandements de la chair. Combien de fois tu as la volonté, mais tu n'en as pas le pouvoir? Vous voyez un peu? La chair. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Pourquoi? Parce que le péché est venu dominer la chair. On n'a pas de pouvoir sur la chair nous-mêmes sans Jésus. Le péché est venu dominer la chair et le péché commande la chair. Le péché pousse la chair à faire certaines choses. Le péché amène la chair à ne pas vivre dans le contentement. C'est pourquoi, frères, sœurs, cette année, nous disons, Esprit de Dieu, descend sur moi. Parce que j'ai compris une réalité. La chair, moi je ne saurais pas la dompter. La chair, moi je ne saurais pas la commander. La chair, moi je n'ai aucune force devant elle. Parce que la volonté est là, mais le pouvoir, je ne l'ai pas. Et c'est là où dans notre passage, on nous dit que l'Esprit Saint habite en toi. La deuxième chose, c'est l'esprit. J'aimerais parler de l'esprit. Frères, sœurs, l'esprit, lorsqu'il descend sur nous, il ne descend pas seulement pour descendre, mais il descend pour faire quoi? Pour habiter. Pas pour descendre seulement pour qu'on voie que la personne a été agitée. Ah, la personne a parlé seulement en langue aujourd'hui. Ah non, l'esprit descend pour habiter.
Oui.
Pas pour autre chose. Et lorsque l'esprit descend, bien aimé, la première fois que l'esprit descend sur nous, c'est lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons déjà ces cachets-là qui viennent sur nous. Mais j'ai préféré ce matin plutôt prendre, voir un peu avec vous, habiter. Habiter là, c'est quoi? L'esprit vient habiter dans ma chair. Habiter, c'est quoi? Bien-aimé, habiter, nous pouvons dire c'est séjourner. N'est-ce pas? Habiter, c'est séjourner. Mais quand nous parlons de séjourner, nous avons là, on dirait une période limitée. L'esprit vient, il séjourne, et il a la possibilité de s'en aller. Ça, c'était à l'époque de l'Ancien Testament. Saul a vécu ça, l'esprit est descendu, mais c'était de façon ponctuelle. Ils ont fait certaines choses, l'esprit est reparti. La Bible ne nous dit pas ça comme ça, mais j'y parle comme ça pour que nous puissions comprendre. Donc, il vient de façon juste là, temporaire, et après, c'est fini. Quand tu finis de faire ce que tu vas faire. Mais habiter, c'est quoi? J'ai réfléchi. Je me suis dit, habiter, c'est vivre. Hein? J'ai vis dans cette maison. J'habite dans cette maison. Vivre. Et quand on dit vivre, je ne sais pas si vous voyez avec moi. Quand je dis vivre dans une maison, vous comprenez un peu? C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup d'activités dans cette maison. Hein? Quand j'ai vu dans la maison là, j'ai en tête l'idée que c'est là où je dors, c'est là où je mange, c'est là où je me lave, c'est là où je reçois les gens, c'est là. Donc j'ai vu tout mon être là est en action dans cette maison là. Et j'essaie de voir, le Saint-Esprit lorsqu'il vient habiter à nous, il a envie de faire la même chose. Il veut être avec toi dans tout ce que tu fais. Il veut te guider dans tout ce que tu es. Lorsque tu manges, il veut être avec toi. Lorsque tu veux dormir, il veut être avec toi. Lorsque tu veux aller, je ne sais pas moi-même, te doucher, il veut être avec toi. Lorsque tu veux recevoir les gens, il veut être avec toi. Il veut vivre en toi. Il veut vivre dans ton être. Il veut rester avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça parce qu'il sait que sans lui, toi, tu ne pourras rien faire de bon. Parce que la chair est plus forte que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit veut vivre en nous. Il veut être là avec nous. Vous savez, j'ai repensé aussi à un autre verbe qui veut aussi dire tout simplement habiter. L'Esprit veut faire quoi? Rester ou encore demeurer. Non seulement je vais vivre, parce que je peux aussi venir être de passage quelque part, faire toutes les activités et après un certain temps je pars. Mais l'esprit veut faire quoi? Il veut rester, il veut demeurer, il veut s'établir. Vous savez, si nous essayons de considérer ce que la Bible nous dit par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, bien-aimés, nous avons tendance seulement à parler de la mission comme si on parlait de quelque chose qui se fait un peu comme là-bas. Non. Le Saint-Esprit veut demeurer en nous parce que partout où moi je suis en mission. Même lorsque je suis assis dans l'église, je suis en mission. En dehors de l'église, je suis en mission. L'Esprit veut habiter en nous. Il veut vraiment demeurer en nous. Il veut rester dans nos vies. Il veut s'établir dans nos vies. Et même avoir des racines dans nos vies. C'est ça que l'Esprit veut faire. Dans notre texte, on nous rappelle plus d'une fois que ceux-là qui appartiennent à Jésus, l'Esprit de Dieu habite en eux. Combien de chrétiens parlent en langue, mais ne sont plus réellement l'habitation du Saint-Esprit? La Bible dit Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a donné, il ne se répand pas. Mais toi-même, tu connais comment tu marches. Parler en langue, c'est une chose. Même les démons parlent en langue. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Même les démons aussi peuvent parler en langue. Mais la source de ce que tu fais provient d'où? Quelle est la place que toi tu as donnée à l'Esprit dans ta vie? Il a un seul désir, venir s'établir en toi, venir demeurer en toi. Mais la vie que tu mènes, les choses que toi tu fais, bien-aimés, sont rattachées à la chair. Comment est-ce que l'esprit va demeurer? Comment est-ce que l'esprit va demeurer? Mais maintenant, la personne là chez qui l'esprit s'est établi n'aura plus envie des choses de la terre. Les envies peuvent venir, mais l'esprit te donnera la victoire parce que tu as compris comment tu dois marcher. L'esprit te donne la victoire. Mais toi, pourquoi toi tu dois accepter toi de tomber toujours dans les choses de la terre? Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux prendre la décision de changer? C'est encore possible, c'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils vivent en opposition. Mais toi, qu'est-ce qui a triomphé de toi? La chair ou l'esprit? Bien-aimé, l'esprit veut s'établir en nous. L'esprit veut habiter en nous. L'esprit, lorsqu'il est là, c'est lui qui démontre notre appartenance à Christ. Et lorsque l'esprit est là, il y a un comportement que nous avons. Nous ne vivons pas de n'importe quelle façon. Nous avons un comportement. Et ce que j'aime avec l'esprit de Dieu, bien-aimé, autant la Bible dit, il nous guide réellement. Mais c'est nous qui ne nous prédisposons pas à nous laisser guider par lui. Mais vous savez, si vous habitez aussi quelque part, vous devez habiter dans de bonnes conditions, n'est-ce pas? C'est pas dans des richesses, je veux dire, mais dans des bonnes conditions où vous êtes quand même à l'aise, vous vous sentez bien, n'est-ce pas? C'est la même chose avec l'esprit. Lorsqu'il va venir habiter en toi, lorsqu'il va vouloir s'établir en toi, la Bible dit dans Éphésiens 4:30, ne l'attriste pas. Il y a des moments où le Saint-Esprit, parce que lui parlera toujours d'une voix douce, d'une voix calme, vraiment avec simplicité. Ne fais pas ceci. Puisque c'est tellement doux, tu dis non, ça c'est ma chair qui me parle. Ne fais pas. Regarde, la Bible dit, tu dis non, mais j'ai besoin d'argent, non? Et tu l'attristes. Tu l'attristes. La Bible va ajouter encore. Dans 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. S'il habite en toi, mets-le à l'aise. N'éteignez pas l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ma marche avec Dieu, ta marche avec Dieu est conditionnée. Et conditionnée par quoi? Par le fait que toi, tu es l'habitation de Dieu. Par le Saint-Esprit. Et si tu es l'habitation de Dieu par le Saint-Esprit, la chair n'aura plus de pouvoir sur toi. Mais si tu laisses la chair prendre le dessus, parce que remarquez avec moi, le problème c'est moi, ce n'est pas Dieu. Dieu m'a déjà montré, d'un côté il y a la chair, de l'autre côté il y a l'esprit. Maintenant moi je vais mettre mon poids de quel côté? Du côté de la chair ou du côté de l'esprit? Ça dépend de moi. Je vais conclure en disant ceci. Romains 8, 6. Et je vais demander à notre frère de me balancer. Première chose de Romains 8. L'affection de la chair. L'affection de la chair. C'est votre Bible. D'une part, nous avons l'affection de la chair. La Bible nous dit qu'elle produit la mort. Qu'on l'éveille ou pas, bien-aimé, tu dois le savoir. L'affection de la chair produit la mort. De l'autre côté, nous avons l'affection de l'esprit. L'affection de l'esprit, la Bible nous dit, est produit la vie et la paix. Voyez, tous nous avons besoin de la vie. Tous nous avons besoin de la paix. Si nous tous ici, nous sommes conduits par l'esprit, dites-moi, nous allons avoir des petits problèmes inutiles dans l'église? Nous n'allons pas voir ce genre de choses. Pourquoi? Parce que nous vivons tous par l'esprit. Mais nous avons des problèmes parce qu'il y a des gens qui sont charnels. Je conclue en disant à toi, bien-aimé, de choisir. Tu choisis l'affection de la chair, tu choisis l'affection de l'esprit. Si tu as marché selon l'affection de la chair, l'occasion t'est donnée de demander pardon à Dieu et de revenir complètement à lui. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Tu te connais. Tu connais ta marche de tous les jours. Tu connais ce qui t'a dirigé. Est-ce l'esprit? Est-ce la chair? Tu connais. Tu connais ce qui s'est passé dans ta vie. Tu connais. Et même ce qui se passe encore en ce moment. Tu connais. Peut-être la chair a déjà pris le dessus sur toi. Tu connais. Et après avoir entendu ces choses amplifiées par le Saint-Esprit, peut-être que tu veux d'abord demander pardon à ton Dieu, tu peux lui demander pardon. Et dans les cas contraires, tu peux aussi vouloir qu'on puisse prier pour toi. Tu peux t'élever.
Frères et sœurs, Dieu a-t-il parlé dans nos cœurs? On sait où on se trouve. Si on aime la chair, la finalité c'est la mort. Et Dieu nous demande d'aimer l'esprit. Pour avoir la vie et la paix. Non seulement la vie terrestre, mais la vie éternelle. Veux-tu qu'on prie pour toi, mon frère, ma soeur? Si tu es touché dans ton cœur, et tu aimerais qu'on prie pour toi, que nous puissions prier pour toi. Tu peux seulement lever ta main. Merci. Merci pour les mains levées. Merci, le Seigneur te voit. Je ne veux pas te demander de te lever. Là où tu es. Merci. Avant de nous conduire à la mort, elle nous conduit quelquefois à l'hôpital, la chair. Elle nous conduit à nous battre. Elle nous conduit en prison. La chair nous conduit à des endroits difficiles. Parfois on se dit non, moi personne ne peut m'arrêter. Moi je suis tel. On pense marcher sur tout le monde. C'est une erreur. La chair, c'est notre ennemi. Elle a sa place à la croix. Lève bien haut ta main. Je ne te demande pas de t'élever. Merci. Gloire au Seigneur.
D'amour, ce matin, tu nous mets devant un choix. L'affection de la chair ou l'affection de l'esprit. Seigneur, merci pour ta parole. Il est tombé à propos pour nous relever, pas pour nous condamner, pour nous relever et faire le bon choix. Tu nous vois, Seigneur, et tu nous connais mieux que quiconque. C'est pour cela que tu as envoyé cette parole. Alors, permets que l'onction de la parole de ce matin puisse atteindre le cœur de tes enfants. Transforme-nous et que le Saint-Esprit confère à tout un chacun de nous de faire le bon choix, le choix de l'Esprit qui a pour conséquence la vie et la paix. Ô Seigneur, tu ne veux pas que nous périssions. Tu as le plan le plus merveilleux pour tout un chacun de nous. Alors prends-nous en charge. Que ce matin, la chair soit réellement crucifiée, clouée, car elle ne nous sert à rien par rapport à ce choix. Alors, donne-nous la sagesse de choisir toujours le côté de l'Esprit. Bénis le peuple qui humblement s'est confié à toi et s'est tourné vers toi. Et surtout, Seigneur, bénis ta servante pour cette parole qui est tombée à propos. Au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Baissons nos têtes, nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Nous te bénissons, Père, et te rendrons des multiples actions de grâce.